Bonjour, à l'occasion des représentations du couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi sur un livret de Giovanni Francesco Busenello à l'Opéra de Rennes du 1er au 8 octobre, nous vous proposons un entretien en deux parties avec Damien Guillon, directeur musical de ces représentations avec le Banquet Céleste dans une mise en scène de Ted Hoffmann. Nous avons parlé avec lui dans le premier épisode de cet opéra, créé à Venise en 1643, racontant Poppée, Néron et des personnages désirant l'amour et le pouvoir et utilisant pour cela la séduction ou la vengeance. Venons-en dans cette seconde partie à la musique et au rapport du texte à la musique chez Monteverdi. Il a été un compositeur s'intéressant au texte et a marqué une transformation dans l'usage de la voix de son époque, de la polyphonie au traitement de la voix individuelle, ce dont témoigne l'histoire de ses madrigaux. Dans cet opéra, que raconte la manière de mettre les mots en musique du génie de Monteverdi, Damien Guillon ?
Alors, oui, comme vous le disiez, là, en fait, le XVIIe siècle est vraiment un siècle charnière dans l'écriture musicale, puisque on est au XVIe siècle, dans la musique renaissance, à une musique qui s'écrit en général, comme vous le disiez, en polyphonie, c'est-à-dire à plusieurs voix, donc plusieurs voix qui chantent ensemble, le même texte ensemble, les trois quarts du temps. Et puis, au XVIIe siècle, il y a cette volonté de certains compositeurs de commencer à exprimer justement les passions en musique et cette volonté de se rapprocher aussi de la tragédie antique, etc., enfin, de ce qui existait à l'Antiquité. Et donc il y a cette volonté de que la musique commence à se mettre au service de passions, d'affects, etc. Et effectivement, l'écriture musicale va évoluer énormément. Et j'ai coutume de dire qu'on passe du « nous » au « je » entre la Renaissance et le baroque, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la musique Renaissance fait toujours appel à une expression un peu globale, de groupe. Et puis, au XVIIe siècle, on va commencer à individualiser le discours, à la fois dramaturgique et musical. Et pour ce faire, les chanteurs vont commencer à chanter seuls, ce qui était beaucoup plus rare à la Renaissance. Et puis on va essayer, à la manière d'un peintre, on va essayer de peindre en musique le texte que l'on met en musique. Et donc les compositeurs vont utiliser, c'est un peu comme des boîtes à outils, c'est-à-dire qu'ils ont des boîtes à outils qui sont les instruments et puis qui sont dans l'écriture musicale l'harmonie, le rythme, voilà. Et avec ces différents ingrédients, ils vont essayer de composer une musique qui aussi s'affranchit de beaucoup de règles d'écriture musicale qu'on avait jusqu'alors.
Il n'y avait pas que Verdi qui critiquait Monteverdi, non. Quelques-uns des contemporains de Monteverdi aussi, même s'il a été extrêmement célébré de son vivant et jusqu'à sa mort.
Il y a une célèbre querelle avec un certain Artusi à l'époque qui lui reproche justement de mettre à mal toutes les règles d'écriture harmonique. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, mais effectivement, Monteverdi et ses contemporains d'ailleurs commencent à écrire en prenant de plus en plus de liberté par rapport à ce qu'on faisait dans les règles du contrepoint harmonique avant. Et donc c'est vraiment de la prise de liberté avec la matière musicale. Et on expérimente, on ajoute des dissonances lorsque les mots sont un peu cruels ou durs, quand on veut exprimer la peine. Et puis par contre on va écrire d'une manière beaucoup plus, avec ce qu'on appelle des accords parfaits, des choses beaucoup plus douces lorsqu'on veut exprimer le plaisir ou l'amour, etc. Voilà. Et petit à petit, il y a toute une palette d'écriture, dans l'écriture musicale qui s'ouvre pour exprimer justement les différentes passions.
Oui, ce qui en fait une musique très expressive, et si on ne comprend pas l'italien, alors évidemment c'est un opéra en italien, mais surtitré en français, mais si on ne comprend pas l'italien, on peut quand même comprendre ce qui se passe par l'expressivité de la musique.
Ben, je crois, oui, c'est le but du compositeur, et puis c'est notre but à nous comme musiciens quand on travaille la partition, c'est justement de colorer au maximum avec l'aide des instruments, avec le rythme du texte, avec le rythme de l'action sur scène, etc., justement d'être au plus proche de ce que l'on veut exprimer. Voilà. Et je parlais des instruments, on a très peu d'indications sur la partition. Monteverdi ne nous dit jamais quels instruments on doit utiliser, par exemple dans la basse continue, c'est-à-dire le groupe d'instruments qui soutient les chanteurs. Là, on va avoir du clavecin, du luth, de la harpe, un orgue. Et tous ces instruments-là, c'est nous qui décidons aujourd'hui à quel moment ils jouent, est-ce qu'ils jouent tous ensemble, à quel moment on met simplement... évidemment, quand vous faites jouer une harpe ou un luth tout seul, c'est beaucoup plus doux que si vous avez l'ensemble des instruments qui jouent ensemble. Donc il y a tout ce travail d'instrumentation aussi que moi je fais au préalable. Et puis que l'on teste en répétition petit à petit aussi en travaillant avec le metteur en scène. Ouais.
Oui, il y a un côté donc, de création en fait,
oui,
vraiment
oui, complètement,
dans votre travail d'interprétation. Ouais.
Oui, c'est un vrai travail de création puisque chaque chef qui aborde le couronnement de Poppé va décider lui-même des instrumentations pour le continuo et aussi d'ailleurs est-ce qu'on met des violons, est-ce qu'on met les cornets, est-ce qu'on met tout le monde ensemble, etc. Suivant vraiment ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut soutenir comme affect sur scène. Donc c'est un vrai travail de création de ce point de vue. Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous guide, vous, le chef d'orchestre et chanteur, pour un compositeur qui a principalement écrit pour la voix, pour les voix, parce qu'il a très peu laissé de partitions purement instrumentales. Ouais. Et même dans cet opéra, il y a beaucoup de basse continue, mais qui soutient une narration. Oui. Il y a beaucoup d'air et peu d'endroits aussi où la musique seule s'exprime.
Oui, la musique est vraiment toujours au service du texte et de l'action. Donc ce qui me guide, moi, c'est vraiment le texte. C'est même parfois le mot. C'est-à-dire qu'on va parfois même colorer certains mots avec certains instruments. Et même Monteverdi le fait dans son écriture en se servant justement ce que je disais de l'harmonie. Et donc nous ensuite on fait un petit travail de peintre musical, un peu, c'est un peu ça, avec les différents instruments. Donc c'est vraiment le texte. Et puis au-delà du mot ou du texte, c'est dans une scène par exemple entre deux personnages, quelle est globalement qu'est-ce qui se passe dans cette scène, et est-ce que c'est une scène qui a un rythme très rapide, est-ce que c'est une scène de colère, est-ce que c'est une scène d'amour, voilà, et à partir de ça on choisit les différents instruments, à quel moment ils jouent, comment on les répartit, etc. Ouais.
Pour raisonner de quelle époque, celle du 21e siècle dans laquelle vous jouez, celle du 17e qui était Monteverdi, vous l'avez suggéré tout à l'heure, donc je me permets d'appuyer, de le redire, c'est qu'il y avait la tentation, et c'est pas pour rien qu'il ait choisi un sujet de l'Antiquité avec des personnages Pope et Néron qui appartiennent à l'Antiquité, où ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'était dans la musique de l'Antiquité gréco-latine. Donc c'est en pensant à quelle époque que vous... Vous faites ces choix.
Je fais quand même ces choix vraiment à partir de mes connaissances sur la musique du XVIIe siècle, aussi parce qu'on utilise un instrumentarium qui est a priori celui que Monteverdi avait à disposition. Je vous dis avec plus ou moins d'instruments, ça c'était aussi c'est comme aujourd'hui, c'était un peu en fonction des budgets, etc. Donc c'était très pragmatique et des musiciens qui étaient engagés par les théâtres où ils jouaient. Donc oui, je le fais quand même beaucoup à partir des connaissances que l'on a des instruments qui étaient utilisés, des effectifs qui étaient a priori ceux qu'on avait à l'époque, etc. Oui.
On enregistre, Damien Guillon, ce podcast une quinzaine de jours avant la première, le 1er octobre. Donc vous l'avez dit, c'est une production qui a été créée à Aix-en-Provence, mais que vous reprenez.
Oui.
Et voilà, avec un nouvel orchestre, nouveau chef, en l'occurrence vous. Quelques interprètes aussi qui changent pour cela. Quel est votre travail là, de répétition? C'est justement cette prise de rôle, prise de fonction?
Oui, alors là, on en est, comme vous dites, on est à 15 jours, un petit peu plus de 15 jours du spectacle, et ça fait 15 jours qu'on travaille. Donc la première partie du travail est surtout un travail avec le chanteur et mise en scène, à la fois parce qu'il y a c'est un apprentissage à différents degrés. Il y a un apprentissage de choses purement techniques, de déplacement, d'accessoires à bouger, etc., qui n'est pas en fait le plus compliqué. Et puis il y a tout le travail justement de direction d'acteur qui est le plus important dans l'œuvre, et spécialement dans le travail que fait Ted Hoffman. Donc dans un premier temps, c'est beaucoup l'équipe de mise en scène qui a la main. Moi j'assiste à toutes les répétitions, ce qui me permet aussi de commencer à orienter le travail musical. Alors nous on a eu la chance, ce qui n'est pas le cas de toutes les prods d'opéra, mais là on a eu la chance de faire une version concert nous au Festival d'Utrecht juste avant. Donc on a déjà fait un travail musical avec les chanteurs, mais dans une optique de concert qui est évidemment très différente d'une optique de mise en scène. Donc voilà comment se déroule le travail jusqu'à présent. Et puis à partir de la semaine prochaine, les instruments arrivent petit à petit. Et donc le vrai travail, disons, sur la matière musicale commence un petit peu plus tard. Voilà. Mais là, c'est très important pour moi d'être présent, à la fois pour parfois donner, insuffler des petites choses musicales. En parallèle, je travaille un peu en tête-à-tête avec les chanteurs un peu chaque jour. Et puis moi, ça me permet aussi de voir où le metteur en scène emmène les chanteurs dans les scènes et que justement qu'il y a une adéquation entre la volonté de la mise en scène et la manière dont nous on va soutenir musicalement toutes ces idées de mise en scène. Ouais.
Bon, on ne pouvait pas sursolliciter un chanteur qui est déjà engagé dans un mouvement corporel très intense.
Oui, c'est ça. De toute façon, pour les chanteurs, c'est la mise en scène à l'opéra, c'est un énorme travail de concentration parce qu'il faut gérer plein de paramètres à la fois. Et donc, c'est vrai que moi, j'essaie toujours au début aussi, parce que j'ai eu cette expérience moi-même en tant que chanteur il y a quelques années, mais j'essaye au tout début du travail d'intervenir assez peu, aussi de laisser les chanteurs s'approprier le personnage et s'approprier ce que le metteur en scène leur demande, et puis petit à petit de rajouter des petites touches musicales. Ouais.
Le résultat sera à voir du 1er au 8 octobre à l'Opéra de Rennes avec donc le Banquet Céleste pour votre version du couronnement de Poppée de Monteverdi. Damien Guillon sera donc l'occasion de débuter la célébration des 15 ans du Banquet Céleste par l'exposition au Carré Lully à l'Opéra de Rennes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes. À bientôt.